Bonjour Tati, tu es la toute première ce matin. J'espère que tu vas bien et qu'il fait beau à Bordeaux. Bonjour Manon, bonjour Pasteur André, bonjour à Jean-Gilbert et à Ozanie. Bonjour à Florie et à Louis. Bonjour Rachel, bonjour Mona, Chantal, Ocilia. J'ai cru lire hier de la part de la sœur Samek que Chantal aurait été blessée, elle serait tombée. Elle aurait eu une côte de fêlée ou de fracturée, je ne suis pas trop sûr du commentaire. Je l'ai vu en passant hier durant l'assemblée. Donc, je suis certainement que Rachel, tu peux nous le confirmer. En tout cas, on prie pour la sœur Chantal. Bonjour Janine, j'espère que vous allez bien. Bonjour Francine, bienvenue parmi nous. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse. Pascal, hier, je vous ai aperçu de loin et j'ai vu que vous avez le même type de manteau que moi pour l'hiver. Le manteau sans manches. Vous êtes plus nordique que vous ne l'auriez cru. Que Dieu vous bénisse, Pascal. Bonjour à ma mère, à mon père. Alors, petit café au lait, ce matin, il fait frais dehors. Quand je suis sorti ce matin, il faisait moins 18 et on ressentait moins 25. Journée ensoleillée. Et en général, au Québec, l'hiver, quand il y a grand soleil, ça veut dire aussi grand froid. Aussi bizarre que ça puisse sonner. Mais en général, un ciel couvert, c'est habituellement une température qui est un peu plus clémente. Donc, voilà. Aujourd'hui, grand froid. Demain, encore un peu de neige. Dépendamment si vous êtes sur Météo Média ou Météo Canada, un des deux, vous avez 5 et l'autre 10 cm. Donc, moi, je vais écouter le 10 cm. Et je vais l'espérer, en tout cas. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Merci Rachel pour la confirmation. Donc effectivement, on prie pour la sœur Chantal. Yolaine, bonjour. Bonjour à la belle-mère. Bonjour à la sœur Anna et au frère Carlo Ruiz. Alors, vous avez un bon 5 minutes pour aller vous chercher un café. Pas au restaurant, par contre, là, vous n'aurez pas le temps de revenir. Thérèse, bonjour. J'essaie de voir si j'ai raté quelques personnes, mais je ne crois pas. Vous aussi, sœur Anna, soyez bénie. Donc, encore deux rendez-vous aujourd'hui. Ce matin, donc, pour la bénédiction matinale, vous êtes déjà au rendez-vous. Puis, ce soir, avec le pasteur André, sur étude sur le livre d'Éphésiens. Donc, on vous invite à être là. Demain, encore deux rendez-vous, bénédiction matinale le matin. Et puis, étude sur les fondements chrétiens à 19h. Mercredi, puisqu'on est dans les annonces, deux rendez-vous aussi. Le matin, bénédiction matinale à 8h30 et puis étude biblique à 19h. Jeudi, une seule capsule le matin, donc la bénédiction matinale, le soir on fait repos. Vendredi, si tout va bien, deux rendez-vous. Le matin pour la bénédiction matinale et le soir à 19h pour un temps de prière et d'intercession. Ce sont là les rendez-vous qu'on a pour cette semaine. On vous rappelle que pour venir assister à nos assemblées en présentiel, c'est le mercredi ou le dimanche. Et puis, il n'y a plus trop de mesures sanitaires, à part le port du masque qui est maintenu. Mais sinon, dès aujourd'hui, on a le droit d'occuper 100% de la capacité du local et on n'est plus obligé de tenir une distanciation entre les sièges. Donc, si vous voulez être là ce mercredi ou ce dimanche, pas d'inscription, pas de restriction d'âge, bien entendu, les enfants, on conseille qu'ils soient là avec les parents, bien entendu. Et puis, simplement le respect du port du masque. Du moins pour toute personne qui n'a pas un trouble de santé avéré. Pourquoi j'ai dit trouble de santé avéré? Parce qu'il pourrait toujours y avoir des gens qui se déclarent asthmatiques ou qui s'inventent un asthme, oui, qui se déclarent avoir de l'asthme et puis c'est pas le cas. Donc pour ceux qui ne doivent pas porter le masque, c'est donc ceux qui sont avec une condition de santé particulière qui a été avérée. Dans certains cas, on parle donc de santé respiratoire. Dans d'autres cas, ça peut être aussi un cas pour enfants avec dans le spectre de l'autisme. Ça peut être compliqué peut-être pour mettre un masque et maintenir un masque. Donc, dans de tels cas, on ne l'exige pas, bien entendu. Mais ça, c'est comme ça depuis le début des mesures avec le masque. Toute personne qui avait une raison médicale avéré n'était pas obligé de porter le masque. Donc, on le spécifie parce qu'on a eu quelques questions ces derniers jours à ce sujet-là. Donc, c'est la seule mesure qui reste en place et puis à écouter ce qui nous est progressivement transmis par la santé publique et par le ministère de la Santé. On croit qu'effectivement, le port du masque devrait tomber aussi sous peu. Donc, mais d'ici là, on fait comme on l'a fait depuis le début de la pandémie. On respecte les normes qui nous sont données, en autant qu'ils ne nous empêchent pas de prêcher. Donc, on respecte les normes, puis parmi ces normes, il y a donc actuellement la seule qui reste, c'est donc le port du masque. Laissez-moi saluer quelques personnes qui se sont branchées. Bonjour à Marie-Marthe. Bonjour à Marjolaine, s'il est avec toi. Bonjour à Marie-André et à Farley, s'il est avec toi. Bonjour à Rosie. Bonjour à Daniel. Daniel, bien remis de la COVID. C'est passé, tout est correct maintenant. Bonjour à Guy. Bonjour à Méreste. Tu es encore en congé aujourd'hui, Méreste, ou tu nous regardes depuis le travail? En tout cas, peu importe, on est content de t'avoir avec nous. J'espère que vous avez eu du bon temps durant ce week-end. Bonjour à Gilles et à Joanne. Alors, cette semaine, on continue notre étude sur le psaume 23. En fait, c'est une relecture légère du psaume 23, je dirais comme ça, et avec un angle tout particulier, celui de la thématique de cette année. Jésus est vraiment ici. Et je disais la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, mais la thématique de cette année, alors que je relis même des classiques, de la parole de Dieu, ce qu'on appellerait des classiques, des passages bien connus, ça me permet de les relire avec une fraîcheur, peut-être avec une portée encore plus étendue que si je faisais, si j'oubliais, disons, et si je ne prenais pas en considération que Jésus est vraiment ici. Alors, quelques dernières salutations et après on va commencer. Pastor David, God bless you. Bienvenue parmi nous. Evelyne, que Dios te bendiga. Very happy that you're here with us this morning. So you'll be listening to us in French. But God bless you, you and your family. Bonjour à Denise de Laval. Bonjour à la sœur Nancy. Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, on prie et après ça je fais la lecture du psaume 23. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion de plonger nos regards dans ta parole. Occasion de rafraîchir notre mémoire, occasion de nous donner une vision plus claire de ta pensée, de ton cœur, de tes aspirations pour nous. On te demande donc, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension, de faire en sorte que nos vies soient comme une terre qui a été bien travaillée pour recevoir la bénédiction que tu as pour nous ce matin. On a des gens qui nous écoutent au loin, au près. Il y a des gens qui vont nous écouter en différé de quelques minutes, de quelques heures, voire de plusieurs semaines. On te demande, Seigneur, qu'une même onction, qu'une même grâce soit accordée à tout un chacun, alors que nous voulons recevoir de toi et que nous te disons tous en cœur, parle Éternel, car tes serviteurs écoutent. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le psaume 23. Je remets mes lunettes, ça trahit mon âge. Je les retirerai par la suite. Donc, le psaume 23 nous dit « Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La semaine dernière, on a étudié principalement les trois premiers versets. Aujourd'hui, on commence avec le verset 4 que je relis pour vous. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je répète encore une ou deux fois. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'écoutais l'enseignement du pasteur Hannibal samedi dernier, et à un moment donné, et à un moment donné, il faisait référence à une chose que j'ai mentionnée probablement dans une prédication, probablement aussi dans certaines études concernant l'exégèse ou concernant ma propre étude de la parole de Dieu. Et je disais que régulièrement, je vais lire un verset, je vais le répéter, à plusieurs et plusieurs reprises avec vous. Je le fais deux, trois fois. Mais dans mon étude personnelle, je vais vraiment répéter, disons qu'on étudie le verset 4, je vais répéter le verset 4 à maintes reprises pour m'assurer de faire pénétrer ces paroles dans mon esprit, dans ma réflexion. Et parfois, à force de répéter, il y a un mot qui se détache des autres, il y a un mot qui apparaît, on dirait, pour lequel j'avais fait fi jusqu'à présent, mais qui là vient capter mon attention. Et ce verset 4 me plaît énormément. C'est probablement le verset que je préfère, en fait, dans le psaume 23. C'est un peu maladroit de dire je préfère tel verset ou je préfère tel passage ou voici mon passage préféré dans la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu dans son ensemble, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis le premier verset jusqu'à son dernier verset, même lorsqu'on est dans des textes qui sont un peu secs, un peu ardus, comme une généalogie ou autre, je dis que l'ensemble de la parole de Dieu est merveilleuse. La parole dans son ensemble est parfaite et est bénéfique pour chacun d'entre nous, est une source de bénédiction. Mais comme on est tous humains, il y a des versets qui viennent parfois nous toucher un peu plus que d'autres. Et ce verset 4 du psaume 23 fait partie de cette catégorie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En fait, ce verset, c'est la thématique de l'année 2022 pour nous en tant qu'Église. On se rappelle la thématique qui va comme suit. Jésus est vraiment ici. Jésus est vraiment ici. Dans l'étude de ce psaume 23, on disait dans le verset 1, « L'Éternel est mon berger. » Et pour toute personne qui connaît le travail du berger, et pour toutes celles qui allaient entonner ce psaume, puisqu'un psaume à la base est un chant, et là un chant que le roi David va enseigner au peuple juif, aux Israélites, et qu'ils vont garder jusqu'à présent, ils vont dans leur célébration le samedi, ils vont avoir dans leur célébration des chants. Et ces chants-là sont rarement tirés ailleurs que dans les Écritures. Donc le psaume 23 va être encore chanté. Je me rappelais à l'époque à l'église, alors que j'étais petit, il y avait une chorale et je me rappelle qu'à un moment donné, le pasteur Fontalvo avait enseigné un chant concernant le psaume 23. Donc c'était un chant ou le psaume 23 qui avait été mis en musique, et je me rappelle encore de la mélodie, même si c'était un chant spécial de la chorale, qui n'a pas été entonné très souvent, qui n'a pas été interprété très souvent, mais aujourd'hui, il y a une partie en particulier concernant le verset 4 qui me revient encore aujourd'hui. Je ne me rappelle pas si la sœur Rachel était là à l'époque, je sais que ma mère et mon père étaient dans la chorale, et puis donc nous on les suivait et on assistait aux pratiques, donc aux répétitions, et je me rappelle la strophe où on dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi. » Et là, on reprenait le début du psaume. C'est merveilleux de savoir que l'Éternel, le bon berger, Jésus, est avec nous. Dans les trois premiers versets, on a vu Jésus avec nous dans les bons moments, dans les moments où nous aspirons au repos, dans les moments où nous profitons de sa grâce, de sa bénédiction, de sa provision. Dans le verset 3, il nous a parlé de sa présence en tant que berger dans nos vies pour nous instruire, pour nous guider, pour nous mener là où il désire nous conduire. Et au verset 4, on aborde les moments difficiles de l'existence. Et vous en conviendrez tous avec moi que c'est particulièrement dans ces moments que nous cherchons la présence de Dieu. Malheureusement, à cause de la nature même des moments difficiles, on a parfois l'impression de se retrouver tout seul. Combien de fois on a dit, combien de fois on a exprimé le fait que nous ne sentions pas la présence de Dieu dans les moments difficiles. Il y a même un poème qui a été mis sur papier qui traite de cette chose-là. C'est ce qu'on appelle, en français, je ne suis pas sûr de la traduction, en anglais, c'est le footsteps, donc les empreintes sur le sol, les empreintes de pas sur le sol. Et c'est l'histoire d'un homme qui a un rêve et dans lequel il voit deux traces de pieds, les siens ou les siennes, et puis les traces de pieds qu'il interprète comme étant celles de Dieu. Et à un moment, il ne voit plus qu'une seule trace de pied. Et il se rend compte que ces moments-là, c'est les moments difficiles de son existence. Une maladie, une perte d'emploi, un deuil, une rupture, une trahison, peu importe. Et il se tourne vers Dieu au réveil et il dit, « Mais Seigneur, comment se fait-il qu'il y avait deux traces de pas, les tiens, les miens, mais dans tous les moments difficiles de mon existence, je ne vois plus qu'une seule trace de pas. » Et Dieu lui dit et lui répond, « Mon fils, c'est parce que quand ça allait mal, je te prenais dans mes bras. » C'est une formule imagée. C'est probablement une formule toutefois réelle et réaliste de la situation. Il y a un verset dans Ésaïe qui dit que, et c'est, là encore c'est un cantique qui me revenait à la pensée cette semaine, qu'il sera pour nous comme un berger, qu'il nous prendra dans ses bras. Savoir que lorsque les choses vont mal, Jésus est là. Soyons clairs, David est en train de parler du cas éventuel où il aurait à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il parle non seulement des expériences qu'il a traversées, donc les passages passés, les passages antérieurs dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il parle aussi des passages ultérieurs, des potentiels passages ou des potentiels traversées de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Parce que tu es présent. Il n'est pas en train de dire « parce que je sais, parce que je sens que tu es là. » Il n'est pas en train de dire « parce que je vois que tu es là. » Il dit, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David dépasse la question des sensations, la question des sens, la question des sentiments et des émotions. Et assurément, lorsqu'on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il nous faut y passer avec la foi. Cette foi qui se campe, qui se dresse sur la parole de Dieu, comme étant seule et absolue vérité. Et qui dit, tu m'as promis d'être avec moi à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors assurément, même si je ne te vois pas, même si je n'entends pas ta voix, même si je ne sens pas physiquement ta présence ou spirituellement ta présence, il y a un fait qui ne change pas. Tu es véritablement, véritablement, véritablement présent. Et pour nous, c'est un appel à cette maturité. C'est un appel à l'acquisition de cette maturité. Quand on est petit, on demande quelque chose à papa et à maman. Et quand ils nous le refusent, on leur pose la question, « Mais papa, est-ce que tu ne m'aimes pas? Maman, est-ce que tu ne m'aimes pas? » On demande un bonbon. Et quand ils nous le refusent, ben, on se tourne vers eux en questionnant leur amour. Avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, on en vient à comprendre que le fait de nous donner un bonbon ou pas, le fait d'acquiescer à nos demandes ou pas, ne remet aucunement en question ou ne prouve pas l'amour de nos parents. Qu'ils nous donnent un bonbon ou pas, on sait qu'ils sont là et qu'ils nous aiment. À plus forte raison lorsqu'on parle de notre Seigneur. Et là, David est en train de dire, « J'ai connu que tu étais avec moi dans les moments difficiles, mais je proclame que si éventuellement j'avais à traverser d'autres moments difficiles, tu serais encore là, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. » La semaine dernière, je vous ai dit, il faut se préparer aux tempêtes de notre existence. Très souvent, les gens ne veulent pas aborder certaines questions. La maladie, la mort, la perte d'un emploi, des moments de crise dans la famille. Ils ne veulent pas en parler parce que c'est comme si c'est un appel à ces situations. Certains sont si superstitieux qu'ils se disent « si je parle d'une maladie, ben à ce moment-là, je vais tomber malade. Si je parle d'une mort, d'un décès, assurément, soit moi je vais mourir ou quelqu'un autour de moi va se mettre à mourir. » Soyons très très clairs. Ça, c'est de la superstition. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, c'est de la superstition, point à la ligne. On n'appelle pas la maladie parce qu'on a parlé d'une maladie. On n'appelle pas la banqueroute financière parce que on a parlé de pauvreté. Lorsque je viens à Christ, je ne devrais plus sombrer dans ces superstitions-là. Et David va à l'encontre de ces superstitions en disant, je peux assurément parler de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Je n'ai pas peur d'en parler. Je n'ai pas peur qu'elle survienne. Je n'ai pas peur de me diriger même vers la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai pas peur de te suivre alors que tu me conduis pour traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai aucune hésitation. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Si on ne se prépare pas à cette vallée va nous engouffrer. Si on ne se prépare pas à cette vallée, notre foi, une fois entrée dans cette vallée, va en être passablement secouée. Une vallée de l'ombre de la mort est à la base quelque chose de terrifiant. Là, on ne parle pas d'attraper la grippe. On ne parle pas d'avoir un pneu crevé alors que je me rends au travail lundi matin. Non, la vallée de l'ombre de la mort, c'est quelque chose où je sens que la mort s'empare de moi. Où je sens que je suis à l'ultime point de trépasser. Moi, où je sens que quelqu'un autour de moi s'apprête à trépasser. Et c'est pas juste « Ah, j'ai le feeling que, j'ai la pensée que... » Non, non, c'est « J'ai les preuves qui m'indiquent que cette personne ou moi-même, on est rendu à cet endroit ultime. » Des capacités de l'être vivant. Et pour plusieurs, c'est un moment terrifiant. Ceux qui sont passés par la vallée, réellement par la vallée de l'ombre de la mort, comprennent le désarroi profond qu'on peut connaître dans un tel moment. Mais une vallée de l'ombre de la mort, le malheur, c'est que plusieurs personnes veulent nous indiquer comment l'éviter. Comment ne pas rentrer dans la vallée de l'ombre de la mort? Ou si on y est, comment la quitter le plus rapidement possible? Le problème, c'est que c'est ni toi, ni moi qui choisissons le chemin. Celui qui choisit le chemin, c'est le berger. Et le berger sait que parfois, pour nous rendre du point A au point B, il nous faut passer par un chemin qui traverse cette vallée. Qui ne la contourne pas, qui ne prend pas en plein milieu ou au début de la traversée une voie de bifurcation qui nous permet d'éviter. C'est le berger qui conduit, Donc, tu ne peux pas l'éviter si le berger te demande de traverser. Tu ne peux pas l'éviter si le berger a décidé que pour se rendre à tel autre point, il fallait passer par là. Mais s'il est le berger, s'il est le bon berger, tu sais où va ta destinée, vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles. Et tu sais aussi que le chemin par lequel il te fait passer est un chemin de justice, un chemin qui fait de toi la personne juste qu'il désire que tu sois, un chemin de transformation. Et assurément, lorsque je suis passé par mes vallées de l'ombre de la mort, et c'est pas juste l'histoire avec le cancer, il y a eu d'autres phases dans ma vie où je demandais même à Dieu, regarde Seigneur, si tu pouvais fermer le livre ce soir et que demain matin, je me retrouve en ta présence, ça serait tellement bien. Oui, j'ai eu ces moments-là de désarroi si profond où je demandais à Dieu de venir me chercher. Mais ce sont des moments qui ont transformé mon existence. On veut connaître le Dieu protecteur. On veut connaître l'Éternel des armées qui marche à nos côtés. Mais on ne veut pas connaître le champ de bataille. On veut connaître la protection de Dieu, mais on veut la connaître juste intellectuellement, juste par récit des autres. Tu ne peux pas expérimenter la protection de Dieu à moins que tu ne sois en danger. Tu ne peux pas expérimenter la provision de Dieu à moins que tu ne sois dans la disette. Tu ne peux pas expérimenter la paix de Dieu à moins que tu ne sois dans le trouble. Tu ne peux pas expérimenter la capacité que Dieu a de calmer la tempête à moins que tu ne te retrouves dans la tempête. Tu ne peux pas expérimenter cette paix qui dépasse l'entendement à moins que tu ne sois dans cette situation où il est totalement illogique d'être en paix. Tout comme tu ne pouvais pas expérimenter le salut de Christ, à moins que tu ne reconnaisses ton statut de pécheur. Vous voyez, on veut proclamer, dire les grandes choses qui concernent Dieu, mais on ne veut pas les expérimenter. Pourvois, Seigneur, mais pourvois au-delà de ce que je suis aujourd'hui déjà bien. Guéris, Seigneur, mais en fait, maintiens juste ma santé. Dieu ne peut pas guérir s'il n'y a pas de maladie. Dieu ne peut pas délivrer s'il n'y a pas de captivité. Dieu ne peut pas apaiser s'il n'y a pas de trouble. Dieu ne peut pas calmer la tempête s'il n'y a pas tempête. Et David va dire, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alors il dit, Seigneur, je sais que lorsque je traverserai la vallée, tu seras là. Alors je te fais confiance. C'est en fait un abandon de David par rapport à Dieu. C'est en fait un don de soi à Dieu. Un abandon de soi entre les mains de Dieu en disant « Où tu veux, Seigneur, quand tu veux, pour la durée que tu veux, dans le contexte que tu veux, ça m'importe peu. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Je ne crains plus la vallée. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté le Dieu de la vallée. Je ne crains plus le désert. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté le Dieu du désert. Je ne crains plus les sommets qui sont si élevés qu'on en perd son oxygène. Pourquoi? Parce que je connais le Dieu des sommets. Notre Dieu est le Dieu des sommets, est aussi Dieu dans la vallée, est aussi Dieu dans les abîmes et dans les abysses. Voilà pourquoi David, dans un autre passage, va dire, regarde Seigneur, si je vais à l'est, à l'orient, à l'occident, si je monte, si je descends dans les entrailles de la terre, t'y vois là encore? Tu es encore là? Alors David dit, peu importe quel est le chemin que j'emprunte, que ce soit celui près des eaux paisibles, que ce soit la pause dans le vert pâturage, que ce soit le sentier rocailleux à travers lequel on passe parfois pour se rendre au pâturage, ou que ce soit la vallée de l'ombre de la mort, où humainement parlant, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune issue, où j'ai l'impression que tout va se terminer, où il y a des ombres terrifiantes à mes côtés, qui me font paniquer comme jamais auparavant, où je suis dans cette ombre si opaque, si ténébreuse, que je ne suis même plus capable de voir au bout de mes pieds. Encore là, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Cette paix qui surpasse l'entendement, je l'ai expérimentée à plusieurs reprises dans ma vie. Et je peux vous assurer que ça change notre relation avec Dieu. Mais pour que j'arrive à cette intimité avec le Seigneur et à cette transformation de ma propre personne, ben, il fallait que j'expérimente la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, je dis la vallée de l'ombre de la mort, soit elle va te tuer, soit elle va te faire sortir transformé. Mais elle ne peut te faire sortir transformé que si tu te campes et si tu reviens aux vérités intrinsèques à la parole de Dieu. Il est là. Tu te fais injecter de la chimiothérapie. Jésus est là. Et je peux le dire aussi crûment que cela, parce que j'ai passé par là, je suis passé par là. Tu peux être en train de voir la mort dans tes yeux, là. Tu la vois face à face. Et tu restes tranquille. Pourquoi? Parce que tu sais celui qui est à côté de toi. Voyez le verset de Paul qui va dire « Mort, où est ton aiguillon ?» C'est que Paul est arrivé à un moment où il a regardé la mort droit dans les yeux. Et lorsque je suis passé notamment dans l'histoire du cancer, je comprenais ce que ça voulait dire de regarder la mort droit dans les yeux. Quand mon médecin principal, le chirurgien, m'a rencontré la première fois, il m'a juste renvoyé à la maison pour aller faire de la chimiothérapie parce que lui se disait « ça ne sert à rien, on est déjà en stade 4, on va tout simplement lui donner un peu de chimiothérapie, la plus forte qu'on peut lui donner en espérant que ça rallonge un peu sa vie. » Bien qu'on sache que ça peut l'hypothéquer aussi tellement les doses étaient fortes. Donc j'ai regardé droit dans les yeux la mort. Mais dans ce moment de la vallée de l'ombre de la mort, je savais, mais je savais comme jamais auparavant. J'expérimentais comme jamais auparavant que le bon berger était à mes côtés. Et je peux vous dire que la rencontre avec l'Éternel des armées, en plein cœur de la vallée de l'ombre de la mort, ça change une vie. Ça change notre relation avec Dieu. Ça change notre vision de Dieu. Ça change notre vision de la vie. Et David assurément l'a expérimenté. Le nombre de fois où on a voulu le tuer. Saül, son fils, les Philistins, les armées qui se sont liguées contre lui, le lion, l'ours, les bêtes sauvages lorsqu'il gardait les brebis, dans ces vallées d'ombre de la mort, David a expérimenté la présence du bon berger. Et il pouvait regarder droit dans les yeux la mort et dire « je ne crains pas ». Il pouvait regarder le lionceau qui s'approchait et il prenait son bâton et il courait contre le lionceau parce qu'il savait qui était avec lui. Ils pouvaient voir l'ours venir pour essayer de s'abattre sur ses brebis, et au lieu de fuir, ils couraient même au-devant de l'ours, parce qu'ils savaient qui campait avec lui. Ils pouvaient regarder celui qui avait terrorisé pendant 40 jours le peuple d'Israël, Goliath, alors qu'aucun homme de guerre, aucun soldat aguerri n'osait affronter Goliath. David est allé en le regardant droit dans les yeux et en lui disant, toi tu viens avec ta lance, tu viens avec ton épée, tu viens avec ton armure. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, tu perds. Parce que je sais que l'Éternel des armées est avec moi. David, Goliath. David avait l'Éternel des armées. Il n'a pas eu peur. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je ne sais pas qui est ton Goliath. Je ne sais pas quelle est ta vallée. Je peux t'assurer d'une chose. Ne fuis pas la vallée. Découvre Jésus vraiment, vraiment, vraiment présent à tes côtés. Et une fois que tu seras sorti de cette vallée, tu vas pouvoir confesser, témoigner, proclamer que Jésus était au rendez-vous et qu'il a pris soin de toi. Et tu vas pouvoir expliquer ce verset qui parle d'une paix qui dépasse l'entendement. Avec tes mots, avec ton témoignage, avec ton vécu. Parce qu'effectivement, la présence de Dieu amène cette paix qui dépasse l'entendement. Prions. Seigneur, merci pour ce merveilleux rappel. Non, Seigneur, on ne conduit pas notre destinée. On te suit. Et c'est toi qui nous conduis dans le bon chemin. Dans le chemin qui est juste. Et parfois, ce chemin s'approche de la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, il la traverse. Et parfois, il la traverse lentement. Mais Seigneur, c'est toi qui es au-devant de nous. Quand Israël traversait le désert, tu conduisais la nation avec une nuée durant la journée et avec une colonne de feu la nuit qui leur rappelait que tu étais présent à leur côté. Seigneur, nous savons, nous n'avons pas besoin de voir, nous n'avons pas besoin de sentir, nous n'avons pas besoin d'entendre, nous savons que tu es là. Alors nous ne craignons plus. Nous ne craindrons jamais plus la vallée de l'ombre de la mort. Parce que nous nous rappellerons constamment que l'Éternel des armées est avec nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Que ta paix s'empare de leur pensée, de leur âme, de leur esprit. Et qu'ils puissent proclamer avec force, avec vigueur, avec audace et avec assurance que Jésus, le bon berger, est vraiment, 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 vraiment ici. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On vous rappelle le rendez-vous avec le pasteur André ce soir, le cours sur Éphésiens. Pour nous, on se retrouve, nous nous retrouvons demain matin à 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. On va rester dans ce verset-là. On va parler de la houlette et du bâton. Et je vais prendre en compte une pensée que le pasteur David m'a partagée la dernière fois où j'ai enseigné sur le psaume 23. Et je vais corriger un petit faux pas qu'on fait régulièrement. Qui va sur un mythe, mais qui n'est pas fondé, ni bibliquement, ni fondé au niveau de la pratique des bergers. Donc, je vous lance le rendez-vous et je vous lance l'hameçon comme ça pour demain matin, en espérant que vous serez nombreux encore une fois à être là. D'ici là, rappelez-vous, l'Éternel des armées, Jésus est vraiment, 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 vraiment ici. Le bon berger est vraiment à vos côtés. Bonne journée à tous.